Bonsoir à tous, il est 20h passé de quelques secondes dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. Rupture, c'est tous les lundis, vendredis et samedis entre 20h et 21h. Nous accueillons ce soir dans les studios de Radio Liban 96.2 FM le musicien Stéphane Reeves. Stéphane Reeves, musicien dans le cadre de la musique expérimentale. Lui, il appelle ça la musique inclassable. Stéphane Reeves est là ce soir pour nous parler de sa musique, de son expérience d'ingénieur du son. Il s'est surtout occupé de restauration, d'archives radiophoniques. Il a été organisateur de concerts en France, contributeur régulier au Festival de musique improvisée. Improvisé Ertigal, un festival qui a lieu à Beyrouth toutes les années et qui fête en 2010 sa 10e édition. Stéphane Reeves, avec lequel je vais vous laisser dans quelques secondes pour un live dans les studios de Radio Liban 96.2 FM, un live sur son laptop, un live laptop. Je vous laisse découvrir et dans quelques secondes, Stéphane et moi, on vous expliquera plus longtemps de quoi il s'agit. Stéphane Reeves, bienvenue. C'était Stéphane Reeves sur les ondes de Radio Liban 96.2 FM. Stéphane Reeves avec nous dans les studios de Radio Liban ce soir. Ce qu'on vient d'écouter, c'était une sorte de solo pour saxophone, mais un solo pour saxophone trituré, torturé et traité à travers un ordinateur portable, un laptop. Stéphane, bienvenue dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. Petit test micro.
Oui.
Je t'entends très bien.
Bonsoir.
C'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission. Stéphane, tu es d'origine française, mais tu es installé au Liban depuis un bon bout de temps de cela. Moi, je connais quelque peu ton parcours, mais j'aimerais qu'on en parle, qu'on le décrive à nos auditeurs. Donc, parle-moi un peu de ton parcours de musicien, de tes débuts dans les milieux de la musique expérimentale.
Mes débuts dans le milieu de la musique expérimentale, ça remonte après mes études classiques. Conservatoire, musique classique, piano, etc. Une rupture avec l'enseignement conventionnel, traditionnel, on va dire, et la découverte d'abord par le free jazz, jazz contemporain, aux instants chavirés principalement, de toutes les musiques inclassables, un peu bizarres, free rock, post-rock, post-punk, électro, électro-acoustique, impro. Et voilà, j'ai changé d'instrument au départ, j'étais pianiste et après je suis passé au saxophone. Et ça fait une quinzaine d'années que je mène une recherche autour du son, principalement au saxophone, au soprano maintenant.
C'est après la découverte de ces musiques marginales et parallèles que tu as décidé de changer d'instrument, de passer du piano au saxophone?
Oui, quelque part oui, parce qu'en fait j'avais besoin de revenir à un instrument qui me permettait de façonner le son moi-même. J'avais le sentiment qu'au piano, j'avais un meuble en face de moi et que je ne pouvais pas tellement triturer à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est une histoire qui est personnelle. Je pense que c'est plutôt une lacune que j'avais dans la pédagogie classique qui ne m'a pas ouvert à d'autres territoires. Et donc, j'avais à ce moment-là besoin de changer complètement d'optique.
Histoire de bien situer la chose par rapport à moi surtout, à quelle année remonte ta découverte de ces musiques parallèles aux Instants Chavirés, qui est une salle française que je connais assez bien?
Je crois que ça doit faire maintenant presque 17 ans, donc ça doit être les années, je crois que les Instants ont 15 ans, donc 15, ils arrivent à, non même 20 ans, donc ils devaient à peine ouvrir, donc ça devait être les années 90, on va dire. 90, 91, enfin, début 90.
Par rapport au saxophone, à l'utilisation du saxophone dans des buts musicaux pour des recherches musicales assez différentes, est-ce que tu t'es heurté à une sorte de refus de la scène française, ou bien au contraire, est-ce que la scène française durant ces années-là était réceptive à tes recherches?
Moi déjà, je ne suis pas arrivé à ce que je fais aujourd'hui en termes de travail acoustique au saxophone. Là, ce que j'ai fait, c'est une diffusion d'un travail, d'un solo qui est sorti sur le label libanais et que je diffuse en fait. Il n'y a pas d'effet dedans. Tous les sons sont issus d'un travail acoustique au saxophone. C'est juste après une superposition de différents éléments et de pouvoir travailler par la diffusion sur des composantes en fait, acoustiques inhérentes au son en lui-même. C'est pas tellement que je rajoute des... Enfin, il n'y a pas d'effet, il n'y a aucun effet. Et à l'époque, en fait, au début des Instants Chavirés, la scène n'était pas tellement axée sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'électroacoustique improvisée, c'est-à-dire les gens qui, à la manière de la musique électronique, font un travail qui, par l'acoustique, qui s'en rapproche. C'était plutôt free music, post-jazz, post-free. Donc, c'était des gens comme Evan Parker ou Zorn, par exemple, à ce moment-là. Donc, c'était encore très idiomatique. Il n'y avait pas eu tout ce mixage avec
toute cette ouverture.
Oui, avec les musiques électroniques, électro-acoustiques, où maintenant les musiciens acoustiques ont dans leur instrument, avec leur instrument même, une démarche très proche. Donc c'était encore très free, en fait, post-free jazz, quoi. Musique libre, quoi. On jouait, c'est encore une musique du cri, quoi, on va dire.
On jouait, on voyait ce qui allait se passer.
Oui, beaucoup d'énergie. L'ère du minimalisme, musique très minimaliste, n'était pas encore à son avènement. C'était post-free, vraiment. On sentait vraiment l'envie de passer du rock ou du jazz à autre chose. Et c'était très en vogue et c'était très foisonnant.
Et c'est dans ce cadre-là qu'un beau jour, tu rencontras Mazen Kerbaj et Sharif Sahnaoui.
C'est beaucoup plus tard. C'est une dizaine d'années plus tard quand moi, j'organisais des concerts à Paris et qu'on avait effectivement régulièrement une petite diaspora libanaise. Ils étaient à peu près 5 ou 6 qui venaient régulièrement aux concerts.
On va faire un petit retour en arrière et parler justement de l'organisation de concerts en France.
Ben voilà, en fait, un peu comme ici, c'est dans le monde entier d'ailleurs, dans cette scène-là, beaucoup de musiciens se prennent en charge et organisent leurs propres concerts, montent leurs propres lieux, parce que, non pas parce qu'il y a une défaillance des institutions, mais parce qu'il y a très peu de lieux en fait, et que si on veut jouer régulièrement, il faut se prendre en main, quoi. On ne peut pas jouer 10 fois dans des lieux destinés à cette musique-là. Donc si on joue une fois ou deux fois par an, c'est pas suffisant si on veut développer son art.
Et donc, si on veut aussi que l'audience suive.
Oui, que l'audience suive, faire progresser la musique, quoi, parce qu'il faut la pratiquer avant tout.
Bien sûr.
Et les rencontres, il y a beaucoup de musiciens en France qui passent, donc il faut qu'il y ait pas mal de scènes pour que tout le monde puisse se rencontrer. Donc de fil en aiguille, un peu comme à Beyrouth finalement, les gens se prennent en charge et montent leur projet. Donc à ce moment-là, j'avais un lieu où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc avec d'autres amis musiciens français, on organisait des concerts et on voyait, c'est vrai, régulièrement des Libanais. Au début, on ne savait pas que c'était des musiciens qui venaient et qui étaient très fidèles et très pointus dans leur réception. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Sharif, Mazen, Christine, Red.
Sharif et Mazen qui eux ont formé il y a quelques années de cela le festival Irtijal ainsi que le label Al Maslah. Un label qui se spécialise dans la sortie de musique expérimentale, on va dire, entre guillemets. Un label sur lequel tu as sorti un disque, justement.
Oui.
Un label qui sort non seulement des artistes libanais qui travaillent dans ce milieu, mais aussi des artistes étrangers. On peut retrouver sur Al Maslah un duo entre le batteur Michael Zerang et le saxophoniste Peter Bratzman. Et c'est donc ces musiciens-là que tu as rencontrés lors de tes années de formation et de tergiversation, on va dire, en France. Et est-ce eux qui t'ont donné l'envie de te diriger vers le Liban?
Tu veux dire Sharif?
Oui, Sharif et Mazen.
Disons que Sharif, c'est une histoire d'amitié. Et l'histoire d'amitié s'est transformée de fil en aiguille par une histoire d'amour, pas avec Sharif, mais évidemment, mais avec quelques extensions périphériques. Et ça m'a amené vers le Liban, oui. Voilà, et maintenant j'y suis. Et c'est assez intéressant, en fait, d'être au Liban, parce que... c'est un lieu où on peut avoir le sentiment de créer quelque chose. Non pas qu'en Europe ou en France ça n'est pas possible, mais c'est différent. Il y a une saturation, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de gens qui passent. Donc c'est à la fois très stimulant en Europe, mais il n'y a pas cette, même du point de vue de l'audience, il n'y a pas cette même faim, en fait.
Une certaine réceptivité aussi.
Oui, vraiment faim, quoi. Enfin, on sent ici que les gens sont curieux, ils ont faim de tout ce qui se passe et ils demandent qu'à assister.
On va revenir tout à l'heure, après un petit intermède musical, sur ton arrivée au Liban et sur la façon dont tu as commencé à faire de la musique ici et les différents liens qui se sont tissés avec cette diaspora libanaise rencontrée à Paris. Par rapport à la musique que tu nous as choisie ce soir, c'est assez spécial et assez spécifique. C'est assez costaud aussi pour ceux qui écoutent Rupture d'habitude et qui sont habitués aux Scrambled Eggs localement et à d'autres groupes de rock étrangers. On commence carrément avec Anton Webern. Explique-moi un peu, explique-nous plutôt ton choix musical ce soir, Stéphane.
Moi, j'ai choisi des musiques pour essayer de tisser des liens avec une certaine tradition de musique européenne ou écrite, on va dire. Parce que souvent, ces musiques-là sont classées comme bizarres, étranges, sans fondement, comme si elles tombaient du ciel, comme ça. Or, il se trouve que...
Tu veux parler des musiques expérimentales que tu pratiques.
Absolument. Les musiques expérimentales aujourd'hui ont l'air d'être perçues comme si c'était quelque chose qui était né il y a 20 ans et qu'on tombait là par hasard dessus. Or,
n'est pas le cas du tout.
Ce n'est pas. C'est complètement faux. Ça se situe dans une très longue tradition qui a maintenant presque, même beaucoup plus que 100 ans. Et qui embrasse tous les courants, évidemment, d'agitation, de réflexion révolutionnaire, de lettristes, musicaux, intellectuels, de tous bords. Évidemment, il y a des ramifications et des liens dans tous ces champs-là. Et aujourd'hui, chacun suit sa voie, mais quelque part est rattaché par l'esprit à ces courants-là. Donc oui, j'avais envie de faire entendre certaines musiques... pas qu'elles aient une influence directe, mais il y a une certaine parenté. Et même esthétiquement, quelque part, on peut y retrouver certaines figures de style.
On commence avec une musique qui est décrite comme le modernisme, si je ne me trompe pas, Anton Webern.
C'est plutôt ce qu'on a appelé l'école de Vienne, c'est-à-dire le dodécaphonisme, en fait, qui est post-classique, qui est période entre du passage du siècle 19, 20e.
Les tout débuts de la musique, de la musique contemporaine.
Et qui est une tentative de sortir de la tonalité. Donc c'est déjà très intéressant.
Les variations pour piano de Anton Webern suivra un morceau de Chelsea.
De Chelsea. Et Chelsea, ça sera intéressant qu'on en parle après parce que lui,
absolument,
il a, je pense, des répercussions très fortes aujourd'hui chez nous.
On débute donc par Anton Webern avec une œuvre composée en 1935-1936, les variations pour piano, opus 27.
Radio Liban, on est fait pour s'entendre.